Session de rentrée par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard le 16 septembre 1996, deuxième conférence.
Étant donné qu'il y a beaucoup de questions, c'est normal, mais c'est bien. J'avoue que ça a mordu sur votre intelligence et vos cœurs. Faisons secours à deux, vous voyez.
Non. Moi, je pose des questions. Il y a d'abord quelques questions de philosophie. La sagesse apparaît comme la connaissance dans sa plénitude. Elle est liée à la découverte de la finalité de l'homme et elle est encore liée à la découverte de Dieu. Pouvez-vous expliciter les liens qui existent entre connaissance dans sa plénitude, connaissance de la finalité, connaissance de Dieu ?
n'atteint pas la sagesse. Parce que je ne peux pas connaître l'homme dans ce qu'il a de plus profond et de plus lui-même si je ne découvre pas le dépassement de la science pour saisir les causes ultimes, pour saisir la finalité. Il n'y a pas de contemplation sans la découverte de la cause finale. Il n'y a pas de contemplation sans la découverte de l'existence de Dieu. Et donc, pour saisir l'homme dans sa relation vis-à-vis de Dieu, cela ne peut se faire que par la sagesse, que par la contemplation. Tandis que toutes les sciences spéciales, particulières, on devient des spécialistes. Ces connaissances-là n'atteignent pas la sagesse. On peut être d'une virtuosité étonnante si on a un grand art d'éducateur, mais on n'est jamais un maître parce que on ne peut pas expliciter ce qu'il y a de plus secret dans l'intelligence et le cœur de l'homme. Alors, je crois qu'il faut bien saisir que les trois sagesses que nous avons essayé de préciser, c'est quelque chose de très particulier. C'est pour ça que saint Thomas le montre d'une manière si nette. C'est très rare que les trois sagesses sont vraiment ce qui est enseigné. La sagesse mystique, il est bien prévu dans l'enseignement de la théologie, dans la Ratio Studiorum, que Rome a précisé il y a quelques années. Il est bien précisé qu'il faut des cours d'ascèse et de mystique. Je ne précise pas plus. Et ordinairement, il n'y a pas beaucoup de monde pour l'enseigner. À Fribourg, où la philosophie et la théologie étaient bien séparées, une fois la faculté de théologie n'a trouvé personne pour enseigner le cours d'ascèse et de mystique. Alors on est venu demander à un philosophe d'enseigner le cours d'ascétique et mystique. L'a demandé, j'ai dit évidemment, oui, je suis très heureux de le faire, ça m'intéressera beaucoup. On était tout heureux d'avoir quelqu'un, je n'avais jamais enseigné. Alors je me suis tout de suite, j'ai écrit aux quelques professeurs d'ascèse et mystique que je connaissais à Rome ou à Paris. J'ai dit, sous quelle lumière enseignez-vous le cours d'ascèse et mystique? C'était un dominicain, à ce moment-là, que je connaissais bien, qui était à l'angélique. Il m'a dit, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Alors, j'enseigne un cours de Thomas d'Aquin sur les dons du Saint-Esprit. C'est pas si mal, déjà. J'enseigne tel traité en le mettant en parallèle avec un autre traité. Quant à celui de Paris, il a trouvé ma question tellement bizarre qu'il n'a pas répondu. Je connaissais ce que disait Père Garry ou Lagrange. de la grâce dans des circonstances particulières à l'égard de tel ou tel saint. C'est faisable, mais évidemment c'est pas un cours d'ascétique mystique. Le père Garrigou, lui qui pourtant avait lancé ce cours à Rome, avant il n'existait pas. Vous voyez ça comme l'application. Et qui implique l'amour. connaissance affective et aimante. Et cette connaissance affective et aimante permet, grâce à l'amour, de pouvoir regarder de l'intérieur le mystère du Père, le mystère du Fils, le mystère de l'Esprit-Saint. Et c'est le propre de la sagesse, de regarder de l'intérieur et pas seulement de l'extérieur. La science regarde les choses de l'extérieur et la sagesse les regarde d'une façon personnelle de l'intérieur. C'est là qu'on comprend le caractère tout à fait propre de l'intelligence qui seule peut avoir une connaissance intime, personnelle, intérieure. Vous voyez, quand saint Thomas s'amuse à rechercher les étymologies, et ce que fait Heidegger, saint Thomas l'avait fait avant, n'est-ce pas ? D'une autre manière, d'une manière beaucoup plus humble. Il nous dit que l'intelligence, à la différence de la raison, l'intelligence, c'est intus legere. C'est lire de l'intérieur. C'est très étonnant que saint Thomas, en disant ça, rejoint Ricoeur. Mais comme il est moderne, saint Thomas dit que l'intelligence, comme la sagesse, c'est une lecture intérieure du mystère de Dieu. Ce n'est pas le raisonnement. La raison ne saisit pas les choses de l'intérieur. La raison, elle saisit les liens, les rapports, les comparaisons. Tandis qu'au contraire, l'intelligence, elle contemple. Elle saisit de l'intérieur. Et parce qu'elle saisit de l'intérieur, elle veut aller le plus loin possible dans la connaissance de la réalité. Parce que c'est cette connaissance de la réalité qu'elle cherche et qu'elle veut. La connaissance de la personne. Vous pouvez décrire, vous saisissez les choses de l'extérieur. Mais si vous voulez connaître en profondeur, il faut saisir de l'intérieur. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout.
L'intelligence est-elle limitée dans son devenir ? Je veux dire, devient-on toujours de plus en plus intelligent ? Ou arrive-t-il un moment où l'intelligence atteint un maximum ? Son entre guillemets potentiel qu'elle ne peut dépasser.
Le sommet de la connaissance, c'est la contemplation. C'est l'acte intellectuel le plus intelligent. Y a-t-il une limite dans la contemplation ? Non. Parce que je contemple une personne. Je contemple un ami. Je contemple quelqu'un que j'aime. Et je peux aller toujours plus loin dans cette intériorité. C'est le progrès le plus profond de l'intelligence. Ce n'est pas l'extension, elle est quantitative, qui est le vrai progrès de l'intelligence. Le vrai progrès de l'intelligence, c'est de pénétrer toujours plus intimement, plus personnellement, dans la personne que je contemple. Voyez bien, ne confondons pas intelligence, intellectus. Intelligentsia. et tu rêves. Et la raison, l'intelligence est faite pour connaître ce qui est. La raison est connaître, est faite pour connaître les relations, les comparaisons, les relations. Et l'intelligence contemple. La raison, elle saisit des lois, des relations nécessaires. Et la loi, ce sont des relations nécessaires. Vous ne contemplez pas une loi. À moins que vous soyez un peu maniaque. Oui, contempler une loi, c'est pas très drôle, hein. Vous contemplez une personne. La contemplation porte sur une personne. Personne qui existe. La loi regarde les possibles. La personne, elle existe. On contemple ce que disaient les anciens. Il reste une réalité existante, tandis que la raison regarde les possibles. Celui qui est intelligent cherche toujours la réalité. Celui qui raisonne aime chercher toutes les relations possibles. Et c'est très fatigant. Tandis que la contemplation est un repos. C'est pour ça que c'est si bon de faire de la philosophie. Ça conduit à la contemplation. Et le monde d'aujourd'hui en a tellement besoin. Parce qu'on est tous excités. Et alors, au bout d'un certain temps, si on est un peu d'irascible, on mord. Il n'y a plus rien. Aristote a découvert le point de vue de, du nous, l'intelligence, le nous, et le point de vue de la partie, du mode particulier d'une intelligence raisonnante. Nous avons une intelligence qui raisonne. Et il y en a qui aiment énormément de raisonner et qui ont très peur de contempler. Parce qu'on contemple une réalité qui me dépasse, qui me transcende, la personne humaine ou divine. Ou angélique. Tandis qu'au contraire, quand vous raisonnez, vous êtes toujours celui qui domine. C'est pour ça qu'on aime tellement de raisonner. Parce qu'on domine. Alors, il se passe de temps en temps, quand on aime de raisonner pour raisonner, c'est le gosse. Des anciens moulins à café. Vous savez, on tourne. Puis quand on ne fait pas attention, qu'on n'a pas de réalisme, on continue de tourner. Il n'y a plus rien à moudre. Mais on continue. Il y a des gens qui sont comme ça. Et ce qui se croient intelligents, ils restent dans l'ordre des possibles. un logicien de premier ordre et un imbécile. Je ne comprends rien du tout. Mais c'est un logicien parfait. J'ai beaucoup d'exemples dans ma vie là-dessus. Cela m'amusait beaucoup. Et une fois, je parlais au Saint-Père d'un des professeurs comme ça qui était logique mathématique. Le Saint-Père, au bout de quelques minutes, dit « Oui, l'inconvénient, c'est que ça ne va pas très loin. Ça ne pénètre pas très loin. »
Pourquoi est-il nécessaire que notre intelligence découvre l'existence de Dieu pour pouvoir être mise au service de la foi?
Là, on touche quelque chose d'extrêmement important. La différence entre la parole de Dieu et la parole humaine. Dieu a voulu que la révélation se fasse en se servant d'une parole humaine. Je pense toujours à ce premier moment dans l'Écriture, quand on dit « Dieu parla à Abraham ». C'est extraordinaire. Dieu qui se met à parler. C'est pas normal que Dieu parle quand même. Dieu n'a pas besoin de parler. Parce que son fils reçoit tout d'un seul coup. Il n'y a pas eu de conversation, de bavardage entre le père et le fils. Non. Il est la lumière. Et la foi nous fait participer à cette lumière. Et Dieu aurait pu très bien me révéler son mystère autrement qu'en se servant de la parole humaine. Mais s'est servi de la parole humaine. Alors, je sais que je ne peux pas faire d'acte de foi sans me servir de la parole dont Dieu se sert, la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu implique une parole humaine. Je ne peux pas faire un acte de foi sans me servir de l'enseignement de Dieu et donc de la parole de Dieu. Dieu aurait pu très bien me révéler son mystère autrement, de façon purement intérieure, et voulu que la révélation soit à la fois personnelle et communautaire. C'est la parole qui unit l'aspect personnel de l'intelligence et l'aspect communautaire de l'intelligence. C'est par la parole qu'on peut enseigner entre hommes. Et Dieu se sert de la parole pour nous communiquer la vérité. Parce que la foi ne modifie pas ma connaissance humaine. Dieu aurait pu, en me donnant la foi, me permettre d'avoir la connaissance d'une nouvelle langue. Il aurait dû faire ça. Parce qu'alors on aurait le langage des croyants. Ça aurait attiré un peu les gens, vous voyez. Ça les aurait séduits. Entre nous, on aurait première vitesse, philosophie. Quatrième vitesse, le langage de Dieu. Un petit débrayage entre deux. Pas grand-chose. Très rapide. C'est extraordinaire que Dieu ait voulu se servir de la parole humaine pour nous présenter. C'est le fruit d'intelligence. L'incarnation, c'est pas seulement l'intelligence qui est divinisée, mais c'est même le corps. Il a pris un corps formé en Marie par l'Esprit Saint. Et ceci pour nous montrer la communion profonde avec nous. Déjà, par la parole de Dieu, il y a une communion intellectuelle. Dieu veut que je reçoive de lui un enseignement par la parole divine. Et je reçois cela dans ma foi. Il y a cette communion avec Dieu. Et ceci me montre que mon intelligence peut remonter jusqu'à Dieu. Que mon intelligence est faite profondément pour recevoir un enseignement de Dieu. Mon intelligence est ordonnée à la foi. Il n'y a pas d'opposition entre la foi et l'intelligence. Pourquoi ? Parce que l'intelligence cherche la vérité et que la foi me donne la vérité. Sous un mode très imparfait, puisque c'est dans l'obscurité, c'est dans la non-évidence, mais c'est quand même la vérité. Et donc là, il y a quelque chose de commun entre la foi, entre l'intelligence, source de la parole et la parole de Dieu qui est la parole humaine dont Dieu se sert. Mais dès que Dieu s'en sert, cette parole est surélevée dans une finalité nouvelle et me permet d'entrer en communion avec Dieu pour une finalité qui est même celle de Dieu. J'ai la même finalité que Dieu. C'est ça qui est bouleversant. Puisque par la foi, je suis ordonné à la vision béatifique. Et par la foi, je sais que ma finalité, c'est un jour de voir Dieu face à face. Et donc d'avoir la même finalité que Dieu. C'est même, au dire de Thomas d'Aquin, c'est même ce qui me fait comprendre le pourquoi de la foi. Pourquoi Dieu me donne-t-il la foi ? Pour me faire comprendre que je suis tout entier ordonné à la vision béatifique, voir Dieu face à face. Et la foi est nécessaire pour être orienté vers la vision béatifique. La foi n'est pas nécessaire pour connaître ce qu'est l'homme. La philosophie me fait connaître ce qu'est l'homme, mais la foi me fait connaître le super-homme, ce qui dépasse les capacités naturelles de l'homme. Voir Dieu face à face. Alors, il faut bien comprendre que l'intelligence, plus elle est elle-même, plus elle s'approche de Dieu. Si elle est ordonnée à la vérité, et si elle atteint la vérité parfaite, et la vérité parfaite, c'est Dieu. Dieu est la vérité. Et aucune vérité n'est au-dessus de Dieu. Si mon intelligence, par elle-même, atteint la vérité philosophique, l'existence de Dieu, mon intelligence est tout proche de Dieu. Et donc, elle est disposée de la manière la plus parfaite à recevoir ce don de Dieu, de la foi, qui me permet d'être immédiatement éclairé par Dieu. Et donc, c'est en découvrant l'existence de Dieu par ma philosophie que mon intelligence s'ouvre à ce don que Dieu me fait de la foi. Mon intelligence, en découvrant l'existence de Dieu, n'est pas ordonnée positivement à la vie surnaturelle, mais elle écarte les obstacles, elle est en attente. C'est pour ça qu'on peut dire que la métaphysique me met en attente de la révélation. Je peux le dire, pas une attente active, mais une attente passive. C'est très curieux parce que c'est au fond ce que dit Heidegger quand il essaie de comprendre la relation qui existe entre l'intelligence et la foi. Il n'y a pas un ordre positif, mais il y a une attente. Une attente que Dieu vienne vers moi. Parce que quand, en philosophie, je cherche à préciser comment je puis atteindre l'existence de Dieu, c'est mon intelligence qui cherche Dieu. Tandis que la foi demande à mon intelligence d'être en attente de Dieu. Une attente qui n'est pas positive, mais une attente réelle que Dieu vienne vers moi. Et quand Dieu donne la grâce de la foi, c'est Dieu qui vient vers moi, mais de l'intérieur, pas d'extérieur. C'est Dieu qui m'enveloppe de sa vérité, de son amour, puisque la foi m'est donnée par l'amour. C'est un don gratuit d'amour. La connaissance de foi n'est pas une connaissance scientifique, c'est une connaissance affective et aimante d'amis à l'égard de son ami. Abraham devient l'ami de Dieu par sa foi. Et tout le discours de Dieu à Abraham, c'est un discours d'ami à un ami. Ceci, c'est capital pour quelqu'un qui a des troubles au point de vue de la foi. La plupart du temps, ceci provient du fait qu'il vit dans un milieu scientifique, que toute sa culture est scientifique. Et au bout d'un certain temps, il n'accepte comme sérieux que la science. Et par le fait même, il rejette la foi. Un savant qui lit la Genèse, ça ne lui apporte pas grand-chose. Un ami qui a compris que Dieu est un ami et qui lit la Genèse, ça lui fait découvrir. trouver des quantités de choses dans un langage symbolique. Un amoureux de Dieu qui lit la Genèse lit une lettre de Dieu à son ami. Et ça lui permet de faire quelque chose de merveilleux, d'assister à la création. Dans la vision béatifique, nous assisterons à la création en pleine lumière. Alors, il vaut mieux essayer d'y assister déjà dès cette terre, dans une lumière aimante et affective. Si vous n'acceptez comme connaissance qu'une connaissance scientifique, vous rejetez la foi, tôt ou tard. Je me souviens de ce savant qui me disait, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup lire l'écriture. Maintenant, ça devient insupportable pour moi. Ça n'a plus aucun sens. C'est pas étonnant parce que vous ne cherchez que la science. Mais dis oui, je ne cherche pas la science. Eh bien, Dieu n'est pas un scientifique. Je regrette, tandis qu'il est un sage. Ah. Vous comprenez le hiatus qu'il y a entre les deux. Vous comprenez, si Dieu était un rationnel scientifique, il y a longtemps qu'il tournerait le moulin à café, il n'y aurait plus rien du tout à moutre. Mais c'est un sage qui contemple. La contemplation est éternelle. Le raisonnement n'est pas éternel. Il est un jouet pour la terre. Quoique la science soit très sérieuse. Mais est-elle vraiment sérieuse? Scandalise exprès, parce que c'est quand même bon de temps en temps. La sagesse joue, la science non. C'est très curieux ces choses-là. Quand on essaie de les comprendre, c'est la philosophie qui doit nous aider à être intelligent pour Dieu. Et donc, si mon intelligence atteint l'existence de Dieu, il y a quelque chose de nouveau qui est actué dans mon intelligence. Et cette intelligence a soif de pouvoir contempler Dieu. Et pour cela, elle accepte la foi qui oriente mon intelligence vers la contemplation de Dieu. Et donc, une intelligence qui a découvert l'existence de Dieu, et une intelligence qui atteint son terme. Mais elle sait qu'elle peut l'atteindre toujours mieux. On va toujours plus loin. On ne peut jamais dire qu'on connaît la philosophie suffisamment. Qu'on connaît la métaphysique suffisamment, non? On sait qu'on doit creuser toujours plus. Parce que contempler Dieu me dépasse infiniment. Et donc je peux toujours aller plus loin. Et je maintiens par le fait même mon intelligence dans un état de jeunesse, parce qu'elle peut toujours croître, parce que la réalité qu'elle regarde est infiniment intelligible. Dieu.
Vous dites que toutes les erreurs théologiques proviennent des erreurs philosophiques. Ce n'est pas de la foi, mais la réflexion sur la foi. Vous dites cela des erreurs d'aujourd'hui, mais n'est-ce pas toujours le cas?
Oui, 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 oui. puis ça vient avec une telle surabondance que ça éclate. Allez, parce que vous avez bien plus de possibilités d'erreur. La philosophie s'est développée. Et il y a ce phénomène tout à fait nouveau, les idéologies athées. Jusque-là, le philosophe était un sage. Maintenant, le philosophe peut être un idéologue athée. Et pour certains, c'est le seul moyen d'être philosophe. Combien de fois j'ai entendu « Comment voulez-vous que vous soyez philosophe, puisque vous croyez ?» Comme si une lumière supérieure me rendait bête. Ça arrive de temps en temps, on est ébloui. Mais être ébloui vis-à-vis de la vérité, c'est magnifique. Normalement, plus je contemple, plus je deviens intelligent. Normalement. Alors il peut évidemment, à cause de la misère de notre corps, de notre esprit, un petit vaisseau qui saute, pas grand chose, hein. Le sang se répand. Résultat, très variable, mais pas très beau. Ce n'est plus une montée.
Pourquoi l'action de l'Esprit Saint a-t-elle diverses modalités? Pourquoi y a-t-il plusieurs dons du Saint-Esprit? Si c'est parce que nous sommes complexes, pourquoi sommes-nous si complexes?
Plus on doit s'élever haut, plus la complexité augmente. Dit Thomas d'Aquin, ce qui est vrai. Et c'est très vrai. Si les dons du Saint-Esprit sont complexes, c'est parce que notre personne humaine est complexe. Croyez bien, j'ai essayé de découvrir toutes les dimensions de la personne humaine au plan philosophique, sans penser du tout aux sept dons du Saint-Esprit. Et j'arrive au nombre 7. Il y a 7 dimensions de la personne humaine. Et les 7 dons du Saint-Esprit viennent déterminer, ennoblir ces 7 dimensions personnelles. Ça, c'est très curieux. C'est très beau. Je ne vous fais pas avec vous, mais cherchez et vous trouverez que les 7 dimensions de la personne humaine sont comme un appel aux 7 dons du Saint-Esprit. Et ça, c'est la comparaison entre la philo et la mystique. Et je vois que cette comparaison est un parallèle constant. C'est ça qui est très étonnant. C'est normal, puisqu'il n'y a qu'une seule source de la vérité. Dieu, un, et Dieu, Trinité. Et c'est le même Dieu. Montrer alors que dans la réalité, vous retrouvez se réunissent sans s'exclure. Alors, comme vous trouvez 1 et 3, vous trouvez 1 et 7 pour la personne humaine. C'est des choses comme ça qui sont très mystérieuses et très intéressantes. Vous vous demandez pourquoi. Pourquoi Dieu est-il 1 et 7 ? Pourquoi Dieu est-il 1 et 3 ? Les 7 tombes du Saint-Esprit. Qui sont dans l'Esprit Saint et qui sont dans le Père et le Fils. Les 7 a toujours été considéré comme la plénitude. Ainsi que 3. 3, c'est la communauté. Il n'y a pas de communauté sans 3. Or, Dieu est le Père de la personne et de la communauté.
Pouvez-vous préciser la place des dons du Saint-Esprit dans l'acquisition de la sagesse théologique ?
Les dons du Saint-Esprit, je peux avoir un regard personnel sur Dieu. Intus legere. Par les dons du Saint-Esprit, je peux personnellement, à travers la foi, l'espérance et la charité, comprendre ce regard intime et personnel à l'égard de Dieu. Or, je suis capable de contempler Dieu, de le contempler dans son unité, de le contempler dans sa Trinité. Je peux, par le fait même, le contempler de l'intérieur, par les dons du Saint-Esprit, et avoir une relation d'intimité avec Dieu, ce qui me permet de ne plus seulement le regarder dans sa transcendance, mais de le regarder aussi dans son immanence, et donc d'avoir un regard amoureux et un regard sa transcendance. Je crois que c'est complémentaire. Et c'est pour ça qu'un théologien qui aime Dieu aura une théologie qui ira beaucoup plus loin que la théologie de quelqu'un qui est très fort en philosophie. D'avoir une théologie précise. C'est un véritable amour de Dieu par le Christ que je peux entrer dans une intimité plus profonde de Dieu, avoir une connaissance amoureuse beaucoup plus profonde que la connaissance d'un philosophe très précise, mais pas intime. Au fond, c'est vrai qu'il y aura toujours deux types de théologie. Une théologie amoureuse, une théologie précise, pénétrante. L'idéal, ce serait d'avoir les deux. Parce qu'il faut à la fois la plus grande précision et le plus grand amour pour s'approcher de lui, pour avoir une vision plus proche connais. Mais les dons du Saint-Esprit me permettent d'avoir une connaissance plus intime de Dieu, plus pénétrante, et donc plus de lui-même tel qu'il est. Alors on arrête. D'autres questions, hein. Faut que carburer les questions.